Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, fripes, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à parler fringues, mode, fripes, sapes et fashion week avec le jeune styliste Mathias Debras. Mon invité a un sens du style et des outfits inimitable. Pour lui, la mode, c'est à la fois le moyen de s'exprimer, mais aussi le moyen de se trouver ou de se retrouver. Bonjour Mathias.
Bonjour Valérie.
Alors, tu es tout jeune styliste, comme
Exactement.
Je disais. Tu as 24 ans.
Exactement, tout juste 24.
Tu as un œil archi aiguisé, déjà, sur la mode.
J'essaye, en tout cas, oui, d'avoir un œil assez pointu, parce que je pense que c'est quand même un milieu qui exige, mais surtout qui demande à ce qu'on soit pointu, et ce qu'on soit réel, et surtout, on va dire, véridique un petit peu dans nos propos et dans ce qu'on fait. On a le droit à l'erreur, il n'y a aucun problème pour ça, je pense. Mais je pense que si on fait quelque chose, il faut savoir ce qu'on fait.
Toi, tu dis les choses assez, on va dire, d'une manière assez franche, notamment quand tu commentes les Fashion Week. On va en reparler avec le arrêtez tout.
Exactement.
Mais avant, j'aimerais quand même, pour les jeunes qui nous écoutent, parce que tu es styliste et tu exerces quand même un métier qui fait rêver.
C'est ça.
Quel a été ton parcours?
Alors, mon parcours, j'ai fait 6 années d'école de mode. Donc, j'ai fait au début une prépa en art appliqué, donc qui était reliée à la mode. Ensuite, j'ai fait 2 ans de BTS. Et ensuite, je suis monté à Paris, parce que moi, je ne suis pas du tout de Paris de base, j'habite à côté de La Rochelle. Et donc, je suis monté à Paris ensuite, j'ai commencé à faire des stages dans le stylisme photo.
Ouais.
J'ai commencé à faire des stages dans le stylisme photo, à assister une styliste qui s'occupait de The Voice, danser avec les stars, de plusieurs célébrités.
Ah, c'était plutôt la télé, quoi.
Exactement, ouais. Le côté télé, mais qui faisait aussi un petit peu parfois des éditos. Donc, j'ai commencé à très vite avoir un profil qui était assez pluriel, un peu plusieurs casquettes, qui était à la fois le côté VIP, donc célébrité, festival de Cannes, mais aussi le côté, en fait, un peu personal shopping, habiller quelqu'un du quotidien qui avait besoin d'avoir quelques bases dans la mode. Donc ensuite...
T'as aidé des personnalités à s'habiller, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités, sans donner les noms, qui ne savent pas s'habiller, c'est ça?
Exactement. Qui ont besoin, en tout cas, je pense qu'ils sont tellement dans un milieu qui est surchargé de l'audiovisuel, où finalement on fait beaucoup attention à notre apparence, mais je pense qu'il y en a beaucoup, et je pense que parfois ils ont raison, de déléguer un petit peu ça. C'est pas une question qu'ils connaissent ou non la mode, qu'ils s'intéressent ou non à la mode, aux tendances, etc.
Ils s'intéressent peut-être pas du tout à la
c'est
mode
ça.
Aussi.
Il y en a des fois qui s'y intéressent pas du tout, et il y en a d'autres des fois qui s'y intéressent, mais qui ont ce besoin, je pense, de déléguer, peut-être par manque d'assurance, ou peut-être parce qu'en fait, au contraire, ils font confiance au milieu de la mode et aux gens qui y travaillent, pour justement les aider, les sublimer et leur...
J'aime bien le terme sublimer.
Mais oui, parce
c'est
qu'en
beau.
Fait, pour moi, la mode permet un peu aussi de sublimer la personnalité, de sublimer qui tu es, d'asseoir aussi tes positions parfois.
Ouais,
c'est-à-dire que vient un look, tu vois, tu me dis que j'ai un look assez fort, etc. Mais je trouve que ce look parfois m'aide à compléter un peu mes mots, compléter ce que je dis, compléter ce que je veux dire et compléter un peu le message que je veux transmettre à la personne.
Et alors, aujourd'hui, tu es arrivé tout de denim vêtu.
Dans denim.
Et alors, c'était quoi le message que tu voulais me faire passer?
Écoute...
C'est quand même le seul jour où je ne suis pas en jean, tu noteras.
Eh bien, le message d'aujourd'hui, ce sera alors qu'on se complète. Voilà.
Ah, c'est ça.
Parce que si tu n'as pas de denim aujourd'hui, je prends la part de denim en toi. Et on s'exprime comme ça.
Ah, c'est voilà. Si joliment dit. Talentueux et poète. Alors, tu m'as dit que la mode, c'était à la fois le moyen de s'exprimer, ce que tu viens de nous dire, mais aussi le moyen de se trouver
Exactement.
Ou de se retrouver. Qu'est-ce que tu entends par là?
Pour moi, tu vois, la mode, donc voilà, je viens de province, etc., une petite campagne, donc pas très loin de La Rochelle. Tu vois, le monde de la mode était très loin de moi. J'en ai toujours rêvé, j'en ai toujours parlé avec ma mère, parce que ma mère, quand elle était un peu plus jeune, etc., elle avait bossé dans la mode, etc.
Ah oui, donc tu as eu une éducation à la mode.
Voilà, un petit peu quand même. Tu vois, j'ai toujours vu ma mère un peu coudre, etc. à la maison. Ma mère a toujours fait attention à son style. C'était très important pour elle, etc. Sans consommer du prêt-à-porter ultra luxe, premium, les maisons, etc. Mais je l'ai toujours vu un petit peu regarder comme ça la télé, les reportages. Elle m'appelait, etc. Elle a toujours connu Lagerfeld via la télé, via les médias, ce qui faisait, elle le trouvait fascinant. Et je crois que pour moi, la mode, ça a été vraiment le moyen de me trouver dans les années, tu sais, collège, lycée. Mmh.
Qui, pour les moi, plus dures, qui sont les plus difficiles, généralement.
Qui ont été les plus dures, mais pour moi, ont été sûrement les plus belles aussi. Tu vois, c'est assez contradictoire.
Ouais.
Donc, j'ai eu besoin de me trouver dans des années qui étaient les plus belles pour moi. Yes. Parce que j'avais un groupe d'amis hyper solidaires, etc. Mais c'était des années où, voilà, on se pose la question de la sexualité, etc. On est en province, donc c'est beaucoup plus compliqué, je pense, quand on est à Paris. En tout cas, moi, je n'ai pas connu... Tu vois, le fait de faire son coming out à Paris, etc., j'ai pas connu tout ça. Moi, c'était en province.
Campagne, c'est plus difficile.
En province, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, moi, la mode a été pour moi une façon de me découvrir, de m'exprimer, d'assumer qui j'étais, d'assumer ma personnalité, mais aussi un peu de créer une sorte de carapace. C'est-à-dire que parfois, on parlait plus de mon look, mais de moi.
Donc, et donc ça m'arrangeait. Tu te cachais derrière.
Ça m'arrangeait. Et maintenant, vu que j'ai pris cette confiance, tu vois, comme tu disais, le côté très franc, le fait de m'exprimer maintenant sur les réseaux sociaux, ce que je ne faisais jamais avant. Avant, tu vois, j'étais au lycée, même en école sup, j'aurais adoré monter ma chaîne YouTube. J'avais fait quelques extraits, j'avais essayé, etc. Mais je n'ai jamais fait. Pourquoi ? Parce que manque de confiance en soi. Donc, j'allais parler de mode. Je parlais de choses, en fait, que je connaissais, qui permettent de me découvrir. Et aujourd'hui, voilà, mon look permet à la fois d'asseoir ma position... mais je pense aussi de m'exprimer, c'est-à-dire de finir un peu la fin de mes phrases parfois.
Ouais.
Des fois de même pas parler.
C'est pas mal. C'est
pas
mal.
Des fois de même pas parler. Ouais.
Mais
on me donne la possibilité de parler. Je pense via mon look parfois, parce que du coup j'en impose un peu plus que certains.
Ah mais parfois t'as des tenues absolument dingues.
C'est ça, tu vois, quand je mets une paire de bottes de pluie Chanel, que je mets un
avec un Bermuda,
boxe, avec un Bermuda en jean, une veste un peu bombers de chez Scott que j'adore.
Ou les claquettes chaussettes aussi.
Parfois, j'ai pu faire. Alors, j'ai chopé les sabots Birkenstock, hyper confort, avec la paire de chaussettes un peu hautes. Et tu vois, les shorts de boxe, une veste de blazer, avec des colliers un peu Chanel, etc. Tu vois, je mixe un peu tout ça, le côté un peu ultra sport, ultra chic, ultra luxe, ultra voilà, tu vois, avec un sac Chanel un peu show off, un peu tout presque. Mais après, parfois, je viens canaliser juste avec un pantalon à pinces ou un jean ultra classique. Un jean blanc, une paire de claquettes Louboutin et on est parti quoi.
Donc ton style est assez indéfinissable en fait.
Exactement. Exactement. Parce que je me suis rendu compte que je regarde énormément les shows. Tu vois, je suis un grand consommateur de tout ce qui se fait.
On va en parler.
À droite et gauche. Mais en fait, je crois que je n'applique pas.
Tu ne suis pas à la mode.
Exactement. En fait, je la fais suivre aux autres. Donc quand tu vois, je fais un édito, quand j'habille une cliente en privé ou voilà. Mais en fait, je me rends compte que je fonctionne énormément au coup de cœur. Je ne fonctionne pas à ce truc de la tendance. J'ai conscience.
La traîne, ce n'est pas pour toi, quoi.
Ouais, c'est bizarre pourtant, parce que tu vois, c'est mon métier. Moi, j'explique les tendances sur les réseaux sociaux. Tu vois, je parle d'une opens, le fait que la femme, maintenant, peut-être que la saison prochaine, elle va porter le collant et qu'elle ne portera rien de plus. Elle va juste porter un body, tu vois. Et en fait, ces choses, je les applique aux autres, mais je ne me les applique pas du tout.
En fait, tu t'en fiches pour toi.
Mais je crois que je m'en fiche et je crois... Alors, ça peut paraître orgueilleux quand je le dis, mais j'ai l'impression en fait que je n'ai pas besoin d'une tendance ou d'une marque ou d'un truc comme ça qui a pu me dire... bon, ben voilà, chez Discord, tu vois, par exemple, on a besoin de porter les trucs ultra, ultra grunge, etc. Et j'aime le look grunge, mais... Est-ce que sur moi, je trouve que c'est compatible ? Pas forcément. Donc, j'apporte le grunge par petites pièces. Mais ce n'est pas du tout un impératif. Tu vois ? Je n'ai pas besoin
de... Tu n'es pas esclave de la mode.
Exactement. J'ai besoin de faire ma propre mode. J'ai besoin de créer et de m'exprimer via mes looks. C'est le plus important pour moi.
J'imagine que le regard des autres, alors là, tu t'en tamponnes complètement.
Alors, parfois, oui.
Et parfois, ah oui, parfois non. Parce qu'il faut oser quand même.
Exactement.
Toi, tu cultives l'art d'oser.
C'est ça. J'adore ça. En fait, tu vois, c'est même pas... Comme tu dis, c'est l'art d'oser. Et c'est pas l'art de, tu vois, d'être too much ou d'en faire trop. Tu vois, c'est que je me dis, en fait, à un moment, si je le fais pas, en fait, les autres le feront à ma place. Donc, pourquoi est-ce qu'en fait, je ne m'amuserais pas avec la mode? Pourquoi est-ce que je ne m'amuserais pas avec les fringues, avec les, toutes ces couleurs, tous ces motifs, les matières et tout ça? Pourquoi je ne le ferais pas?
Mais c'est ça, c'est, tu vois, la mode, de toute façon, la mode est un jeu.
Bien sûr, et je me suis tellement bridée quand j'étais plus jeune. Bon, je ne me suis pas autant bridée que les autres, je pense, parce que, tu vois, il y a des fois, j'arrivais au lycée avec un costume un peu trop large. Alors qu'en province, les gens, les mecs portaient des joggings et une paire de Lacoste, tu vois, un truc comme ça, des TN. Mais moi, c'était hors de question, tu vois, j'avais déjà des petites bottines, tu vois, un peu à la Saint-Laurent.
Mais on se que faisait des remarques ou pas?
Ah oui.
Parce que les ça, ados sont durs entre eux.
Ah ben bien sûr. C'était les plus belles années, mais aussi les plus dures.
Et tu le vivais comment?
Alors, je pense que je les ai... C'est un peu coulé, tu vois. Ça a coulé, mais à la fois, ça m'a aussi permis, aujourd'hui, je pense, d'avoir forgé ma personnalité et de ne pas avoir honte de qui je suis, tu vois. Le mec de 24 ans, qui vient de province, oui, et alors?
Et alors,
qui est homosexuel, oui, et alors, tu vois. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Et tu vois, et qui fait ce qu'il veut aujourd'hui.
Surtout que t'es bien dans ta peau. Et on le sent, de
exactement.
Toute façon.
Exactement. Tu vois.
Alors, d'ailleurs, tu as fait un super concept. Tu as créé, pardon, un super concept sur Instagram.
Exactement.
J'ai relayé plusieurs de tes fashion stories.
Oui, et un grand merci, puisque du coup, aussi grâce à toi, c'est aussi important de le dire, ma communauté a aussi beaucoup grandi. Et c'est vrai. Parce que tu es suivi sur les réseaux sociaux, parce que pour moi, il y a quand même... t'as une énorme légitimité sur tout ce que tu dis, sur tout ce que tu montres, etc. Et en fait, dès que tu repostais un de mes réels, arrêtez tout, où je décrypte la mode, mais il y avait des fois où j'ai pu gagner 300, 400 abonnés, tu vois. Et c'était au tout début, quand je commençais mes vidéos. Aujourd'hui, je suis à 1000, 1500 abonnés par semaine. Donc, tu vois, on est à peu près dans ce quota-là, tu vois.
C'est bien.
Donc, c'est pas mal. Des fois, j'ai des gros buzz, 1000 abonnés par jour, etc. Mais c'était au moment où j'avais encore 6 ou 7 000. Tu vois, aujourd'hui, demain, normalement, j'ai les 15 000, si je compte un peu au niveau du quota. Et donc, oui, le fait que toi, tu relaies sur tes réseaux, j'ai eu des messages, etc. Oui, je viens de la part de Valérie, etc. J'adore ce que tu fais, nanana, trop bonne découverte, je vais te suivre.
Mais comment t'as eu l'idée de cette arrêter tout?
Alors, écoute.
Et après, c'est en accéléré. Et tu as dit pour les auditeurs qui connaissent pas le concept, en fait, tu passes le défilé en très vite et tu t'arrêtes sur 3-4 looks.
Exactement. Phare,
tu te choisis ces looks parce qu'ils te plaisent, parce qu'il y a un truc, parce que tu as un œil. Parfois, tu vois des choses que je ne vois pas.
Ouais.
Et là, je me suis dit, il est brillant.
C'est ça la richesse du fait qu'on arrive à se compléter, tu vois.
Bah oui, on se complète aujourd'hui, regarde.
Bien sûr. Et en fait, en gros, j'ai eu une petite période de creux en octobre et novembre 2023 au niveau de mon job de styliste freelance. Donc, en fait, j'ai enchaîné un voyage à Mykonos pour un édito, donc c'était super bien, voilà. J'ai enchaîné 10 jours à Marrakech et à Ouargla, donc au Maroc avec mon copain. Donc voilà, donc, j'ai un peu enchaîné, tu vois, des déplacements. Voilà. Et peu à peu... les clients commençaient à me dire, bon, écoute, les budgets en 2024, etc.
Ah, ben oui, quand t'es freelance...
Voilà, tu dépends de tes clients. Donc, à la fois, tu choisis tes clients. Donc, les clients deviennent tes prestataires, mais tu es aussi leur prestataire à eux. C'est du donnant-donnant. Mais à la fin, c'est eux qui te payent.
Voilà.
Donc...
c'est le nerf de la guerre.
Exactement. Dans tous les cas, l'argent, voilà. Donc, j'étais à la maison, etc., à Paris. Et j'ai toujours adoré m'exprimer sur les réseaux sociaux. Tu vois, au début, c'était beaucoup via les stories Instagram. Je reprenais beaucoup des images d'archives, de vidéos, etc. Des mannequins qui arrivent sur une musique un peu comme ça, un peu électro, etc. Et moi, je disais, category is, moi, quand je vais à la grande épicerie, faire un machin. Moi, quand
j'adore,
je sors
ça donne la pêche.
C'est ça, exactement. Et tu vois, je faisais 2 à 3 fois comme ça par jour. Et donc, j'ai eu cette période de creux, etc. Je tourne très vite à la maison. Mais je commençais à tourner, tu vois, dans la maison, c'est-à-dire tourner en boucle, en fait, dans mon appartement, tu vois. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je commençais à me dire, bon, je vais un peu bosser sur mon site, sur mon image. Ok, je commence à bosser sur mon site. Je trouve ça boring à mort. Ça m'agace, ça m'énerve, parce que bosser sur le digital et construire son site, c'est pas du tout mon métier.
C'est pas ton métier,
c'est
non.
C'est pas ce que je veux faire. Bosser sur mon image, oui, mais d'une autre façon. Donc là... on a le flot d'images sur les réseaux sociaux. Tout le temps, comme tu disais, tu vois, on a tout le temps les tendances. On a des défilés à foison. Il y a tout le temps des nouvelles têtes à droite et gauche.
Il y a beaucoup, beaucoup de défilés. Ça, on va reparler.
Énormément. On va même dire trop de défilés. Voilà, on va dire les mots, il y a trop de défilés. Et donc, je me suis dit, bon, Mathias, écoute, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Dans tous les cas, tu regardes des défilés.
Voilà.
tu regardes. Mmh. Tu regardes comment les gens sont habillés. Pas pour juger, mais pour en fait être au fait de ce qui se fait actuellement.
Non, parce que t'es jamais, jamais dans la méchanceté. Exactement. Jamais.
Moi, le but, c'est de rester... Tu vois, quand je parle de la mode, je veux parler de positivité. Je veux parler de choses que j'ai aimées. Je veux parler de choses qui m'ont fait vibrer, qui m'ont parlé, qui m'ont ému. Tu vois, le show Margiela.
Oui, alors ça, Alors, j'étais pas... Pour une fois, je n'étais pas du tout d'accord avec toi. moi, il m'a déprimé plutôt qu'autre chose.
Mais moi aussi. Moi aussi. Tu sais
qu'il
m'a
aimé
déprimé.
La... Oui, mais tu as aimé le vêtement, tout ce qu'il y avait, c'est la ça. Mise en scène.
Voilà. Mais il m'a déprimé.
Il t'a touché.
Voilà, en fait, il m'a touché au plus profond. Alors, il y a aussi beaucoup de la musique qui m'a touché, tu vois. Parce que les vêtements, bon, bah voilà.
On ne voyait pas grand-chose, d'ailleurs.
On n'est pas sur du pré-tap. La light.
C'était de la haute couture.
Exactement.
Alors, justement, à propos de Fashion Week, alors qu'est-ce que tu as pensé du dernier opus de la Paris Fashion Week ?
Eh bien, écoute, l'abondance, le trop sur le trop, le jamais trop, le voilà. On était sur beaucoup. Et tu vois, moi, je fais mes vidéos, je sors 3-4 vidéos par jour.
C'est énorme. Hein.
En plus de ma présence, sur certains shows, tu vois. Donc, c'est un rythme fou. Et en fait, j'ai l'impression... Donc là, tu vois, moi, j'ai vraiment commencé mes vidéos. On était sur la Fashion Week Homme à Milan. Ensuite, on a fait la Fashion Week Homme à Paris. Deux semaines et demie après, c'était la Fashion Week...
Haute couture.
Ah oui, après. Non, directement après. On a eu une semaine collée de la haute couture.
Et de l'homme.
Voilà. Et ensuite, deux semaines après, on a enchaîné avec le prêt-à-porter femme. Donc là, c'était New York, Londres, Milan, Paris. Donc, un mois entier, même plus qu'un mois. Parce qu'à Paris, déjà, c'était sur 9 jours.
Non, mais moi, il y a des filles qui m'ont écrit sur Instagram, on dit, mais en fait, ça ne s'arrête jamais.
Ça ne s'est pas arrêté. En fait, il y a eu 2 à 3 semaines de creux, mais on n'a pas senti ce creux, puisqu'on était encore, nous, sur la Fashion Week homme, donc sur les tendances hommes, de comment l'homme allait s'habiller en hiver 2024-2025, et sur la couture. Donc, sur la beauté des choses qui apparaît lit, sur ce genre de choses qui nous ont marqués, qui nous ont frappés. Et en plus de ça, en pleine couture, et après la couture, on a eu des défilés qui sont hors calendrier, comme on a eu du Alaïa, du Saint-Laurent.
Jacques Mus,
voilà.
Céline.
Voilà.
Enfin, c'est pas un défilé, Céline.
Mais voilà, on a eu des visuels. On a eu de quoi manger. Donc ça fait deux mois, on mange de la mode.
Et là, tu n'en as pas une overdose ?
Ah ben, c'est monté jusqu'à la gorge. Ça s'est resté bloqué. Et là, je suis quand même un petit peu content que ce soit calmé parce que j'ai besoin de digérer maintenant, tu vois. J'ai besoin de comprendre aussi ce qui s'est passé, quelles sont les tendances.
Alors, quelles sont les tendances pour l'hiver prochain ?
Ah bah alors, écoute, l'hiver prochain, pour moi, c'est très drôle, hein, parce que, comme je te disais avant, la femme ne portera presque pas de pantalon. On a vu...
Est-ce que tu crois que ça, c'est pas un peu...
Ce sera pas portable.
C'est pas portable, évidemment.
C'est pas réalisable. C'est pour nous faire rêver, c'est pour faire un petit peu le coup de com', etc. C'est un peu pour montrer que, bon, t'as pas besoin de pantalon pour sortir de ta journée, tu vois, de commencer ta journée, d'aller au bureau. Tu mets un collant, en fait, le collant devient pantalon.
Ouais, mais bon, quand t'habites Paris, tu prends le métro, c'est un petit peu...
On évite, c'est mieux pour le taxi, tu vois, ce sera bien pour les influenceurs.
Voilà.
On continue de... Voilà. D'accepter la tendance du collant rouge qu'on a vu partout, tu vois, chez Prada, chez Miu Miu, etc. On l'a vu partout, chez Schiaparelli, on porte le look en jean avec un bas rouge.
Voilà. J'adore.
Moi aussi, j'adore.
Alors, le collant rouge, je l'ai acheté, mais je n'ai pas réussi à le porter. Tu vois, on arrive à la fin de l'hiver, là.
Je pense que le collant rouge, c'est très beau. C'est dingue, parce que c'est quand même une couleur qui veut dire beaucoup. Tu vois aussi, le rouge, c'est très fort, c'est très symbolique, etc. Tu vois, et le mettre sur les jambes, c'est aussi très fort. On ne parle pas d'un foulard en soie Hermès qui a des teintes rouges. On ne parle pas d'une veste...
Non, c'est le collant rouge.
Pas d'une chemise en soie.
Mais c'est quoi la symbolique du collant rouge pour toi ?
Ben, pour moi, il y a quand même aussi... Alors, tu me diras peut-être que je me trompe, mais il y a quand même un truc aussi un peu de royaliste.
Ouais.
J'ai l'impression, tu vois.
Mais là, j'ai vu qu'il y avait moins de rouge. Hein,
il y a un peu moins de rouge.
L'hiver prochain, il y a plus de pastels.
Exactement.
On a switché. Hein.
Voilà, il y a beaucoup plus de pastels, beaucoup plus de nœuds. Tu sais, sur la tendance de la coquette corps qu'on a vu sur TikTok avant de voir sur les défilés. C'est là aussi où tu te dis l'importance des réseaux sociaux. On en a conscience, peu importe la personne qu'elle travaille dans la mode, dans le journalisme, qu'elle est, je ne sais pas, moi, ça peut être ailleurs. Elle vendeuse, vendeur, etc. Peu importe. On sait aujourd'hui que les réseaux sociaux décident la mode de demain.
Oui, et tout comme les réseaux sociaux aussi dessinent les magazines print, qui ne sont plus du tout, ils sont complètement hors retard, ils se cassent la gueule et ils sont surtout très en retard en plus, puisqu'on est on sait en avance ce qui va se passer.
Exactement. En regardant 20 vidéos sur TikTok, si tu arrives à avoir un bon algorithme ou un bon feed, t'as compris, demain, ce qui sera la mode. Le Y2K, il est reparti sur TikTok. Et ensuite, il est revenu sur les shows. Discord l'a fait, Diesel l'a fait.
Versace. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est?
Le Y2K, c'est un peu une sorte de tendance qui vient de base des années 2000, où on portait le jean qui était baggy, qui était beaucoup trop grand. Donc, on voyait la culotte ou on le voyait le caleçon un peu long.
Taille basse. Un peu taille basse. Taille basse.
Voilà. Le taille basse qui revient à la mort. C'est la femme Miu Miu, elle porte du extra taille basse.
Oui, bah comme encore là. Hein.
Exactement. Voilà. Donc, le Y2K, c'est le côté je veux me sentir bien dans mes fringues. Le vêtement, il est taché. C'est pas grave. La chemise, elle est tachée. C'est pas grave. Ça donne un style, ça donne un look, ça donne une odeur, ça donne une aura au vêtement. Tu vois, ça donne tout ça. C'est, pour moi, le Y2K, ça a été l'une des tendances où j'ai vu le plus de jeunes s'exprimer. Parce que tu pouvais faire un look dingue avec rien. Tu pouvais aller à Guérissol ou à Fripstar à Paris, prendre une chemise à 2 euros, un débardeur à 1 euro, un foulard à 50 centimes dans un bac, tu vois. Une veste de costume un peu large qui t'a coûté 2 euros. Tu mettais ça avec une paire de Salomon ou une paire de Derby que tu avais pu trouver sur Vinted. Des fois, c'est une paire de Derby Dolce Gabbana, tu vois, mais qui t'avait payé 25 ou 30 euros parce que plus du tout à la mode. Tu faisais un look total. Waouh. Le message, il était passé. La personne n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche pour que le look parle pour elle.
Toi, t'aimes bien aller dans les friperies?
Alors, avant, j'aimais beaucoup aller dans les friperies. Je pense aussi parce que, pour moi, c'était aussi ce côté, tu sais, comme je te dis, j'ai du mal à suivre la mode, à suivre les tendances. Je fonctionne au coup de cœur. Donc, j'adorais aller chiner. Tu vois, Guérissol, moi, quand je suis venu à Paris il y a 4 ans de ça maintenant, ouais, il y a 4 ans, j'habitais pas très loin de Guérissol. J'habitais dans le 17e. Mon premier appartement, c'était là. C'est dans le 17e, vers Brochamp.
Ah ben, il y a un super Guérissol.
Exactement. Il y a toute une rue où il y a 5 ou 6 Guérissols. Et en fait, j'adorais y aller. Mais j'y allais tous les week-ends. Je chopais des vestes Saint-Laurent à 2,50 €. Alors, malheureusement, ça, c'est mon plus gros regret de friperie. À un moment, Balenciaga, les JO, je crois, 2008. Alors, je dis peut-être une erreur hein, au niveau des dates, mais les avant-derniers JO en Grèce, Balenciaga avait habillé. Et en fait, c'était un costume violet, épaules hyper marquées, avec le signe des JO.
Et tu l'as pas pris?
Elle était à 2 euros. Je l'ai pas prise. Je l'ai pas prise parce que je me suis dit, non, mais le violet et tout, jamais de la vie, je porterai ça, etc.
T'imagines comment t'aurais été dans la trend là? Ouais. Non, tu veux pas y être.
Aujourd'hui, tu me donnes une veste violet Balenciaga avec le sigle des JO. Ah, je te fais une vidéo arrêtée tout sur les JO, sur ce qui va se passer à Paris. Tu vois?
Alors ça, on va pas glisser sur le terrain des JO parce que c'est une...
Je crois qu'il vaut mieux pas en parler.
C'est plutôt la... je préfère la Fashion Week.
Exactement.
Hein. C'est moins dangereux, mais...
Voilà, exactement.
Donc, quel est l'ADN de ta garde-robe?
L'ADN de ma garde-robe aujourd'hui, c'est des pièces quand même assez forte, tu vois, dans le côté luxe, hein, le côté premium.
Oui,
luxe.
Parce que tu disais que tu parlais des friperies au passé, donc maintenant tu n'y vas plus.
Alors, j'y vais encore, mais j'y vais presque plus.
Pourquoi?
J'y vais presque plus, je pense, soit par manque de temps, ou parce qu'aujourd'hui, maintenant, voilà, je suis styliste, j'ai aussi, jeune styliste, certes, mais j'ai pas peur de le dire, que je suis aussi rentré dans un autre modèle économique.
Ouais, tu as accès aux soldes de presse.
Voilà. J'ai accès aux ventes presse des marques ou des maisons, voilà, ou même via Arletty aussi. C'est-à-dire que porter un look entièrement Mugler comme je l'ai aujourd'hui avec des mocassins Givenchy, c'est accessible.
Pas pour tout le monde, parce que tu travailles. Mais ce que j'aime chez toi, c'est que tu as vraiment les pieds sur terre.
C'est ça. Et ouais, j'essaye en tout cas de toujours garder...
J'ai zappé une question que je voulais absolument parler avec toi. J'ai séché la Fashion Week et j'ai vraiment regardé, je te l'avais dit hein, au téléphone, tout sur l'ordinateur. Et j'ai été marquée maintenant parce qu'on s'aperçoit que avant, quand les maisons ça fait longtemps déjà qu'on peut assister aux shows en direct sur les sites internet, mais là maintenant on voit l'avant-show, c'est-à-dire qu'on voit l'arrivée des stars de K-pop, des influenceurs qui sont tous en front row. Tout ça, c'est pour faire de l'image, de l'image, de l'image, de la surenchère, du buzz. Qu'est-ce que tu penses de ça, au détriment du vêtement,
hein? Bien sûr. Bah, en fait, je pense qu'il y a certaines marques qui ont vraiment basé une bonne partie de leur image sur le look des personnalités, sur qui allait porter telle ou telle marque.
Enfin, chez Chloé, quand même, les femmes avec toutes leurs sandales identiques, c'était...
Ça, c'était un énorme coup de com'.
Je pense que chez Zara, il y en aura...
C'est sûr à 100%. C'est sûr à 100%. Parce que tu vois, j'ai été voir le récit Chloé. Mmh. Et donc, j'en parlais avec les relations presse. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je me suis dit, mais là, c'est un choix délibéré de la maison.
Mais évidemment.
C'était une nouvelle direction artistique, etc. Mmh. On a le retour de l'ADN Chloé très, très forte. Mmh. Le trench avec en dessous une robe en mousseline de soie, etc.
Très gypsy, hein, quand même.
C'est ça, exactement. Gypsy, hippie, tout ce que tu veux.
Oui, hippie.
La femme qui est à la fois presque... Pour moi, la femme Chloé, maintenant, elle va être ultra luxe. Parce que Chloé, c'est quand même des pièces ultra luxe. On est quand même sur des maisons, une maison qui fait très, très attention aux matières utilisées, au cuir utilisé, à des pièces sustainable, on va dire entre guillemets. Je leur demande, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, c'est un choix délibéré de la maison.
Mais de la maison ou du service marketing et de com?
Ah, mais je pense de la totalité.
Ouais,
de tout ça. Je pense que la com a très bien joué. Mmh. Et on a vu les visuels de toutes ces chaussures et toutes les influenceuses battaient du pied comme ça, qui battaient du pied, tu vois, avec les grosses chaussures ultra compensées, qui n'étaient plus à la mode, accessoirement.
Oui.
Mais qui aujourd'hui, ça y est.
Ah ben, ça, alors on ne voit que ça. Ouais. Et on va ne voir que ça. Je suis sûre que dans la face, parce que c'est très intéressant, ce que j'adore, c'est regarder. Quand en pré-tape, tu regardes les shows. Mmh. Je me dis, bah là, ça y est, chez Zara, ils sont déjà en train de bosser dessus.
Mais c'est sûr. C'est sûr.
Qu'est-ce que tu penses de la fast fashion?
Catastrophe. Catastrophe. Pour moi, et après, c'est pareil. Aujourd'hui, je dis catastrophe. Hier, je disais catastrophe. Quand j'étais plus jeune, je disais déjà catastrophe. C'est-à-dire que mes parents m'ont aussi, je pense, éduqué sur ce modèle-là. C'est-à-dire, j'ai jamais eu de fringues chez Zara.
T'as eu une éducation.
J'ai jamais eu de vêtements H&M, tu vois. Et pourtant.
Pourtant en province.
Bien sûr. Pourtant en province, c'est la seule chose à laquelle on a accès.
Parce que je connais un peu La Rochelle, c'est vrai que pour s'habiller, ça ne doit pas être évident.
Mais bien sûr. Mais oui. C'est qu'il y a l'énorme Zara, etc. Il y a l'énorme H&M, il y a les Galeries Lafayette, etc. Et comme je te disais, j'ai eu très vite besoin de m'exprimer via la mode. Et évidemment, je voyais tout le monde qui avait acheté la petite blouse chez Zara, le petit jean skinny, voilà. Mais j'ai jamais voulu m'acheter des pièces en fast fashion.
Alors, je sais pas si t'as remarqué, t'as vu que Zara dit que maintenant, eux, ce n'est plus de la fast fashion. Oui. Ils sont passés en moyenne gamme.
Oui, c'est de la low fashion, ils font à la fois du make-up, ils font du bijou. Mais bon, quand tu vas chez Zara, quand tu regardes juste les campagnes Zara qui sont parfois plus belles, certaines maisons.
Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai.
Dire, qui sont shootées par des photographes de dingue, exceptionnels, qui faisaient avant des Vogue, etc. Parce qu'en fait, Zara, maintenant, la machine.
C'est le groupe Inditex. Lancée,
C'est le broyeur de la mode. Donc, ils ont les moyens de se payer un Raphaël Pavarotti, par exemple, qui le lundi peut shooter une campagne Balmain, mais qui le mardi part en Espagne shooter une campagne Zara.
C'est un photographe, je précise.
Exactement, exactement. Et c'est dingue. C'est dingue de voir tout ça.
Quel est, selon toi, le pire des fashion faux pas?
Le pire des fashion faux pas? Tu veux rire?
Ouais, non, oui, bien sûr.
Je crois que le pire des fashion faux pas, c'est de ne pas en faire.
Ah, c'est beau ça. Oh, c'est la première fois qu'on me le sort.
Tu vois?
Super.
Ouais. Parce que je sais, par exemple, que quand je mets un short de boxe en satin, short de boxe thaïlandais, avec une paire de Santiago bleues, je sais que je fais un fashion faux pas, mais en fait j'arrive à transformer ce fashion faux pas en quelque chose d'un peu mode, tu vois, quelque chose d'un peu drôle.
Et tu t'exprimes aussi.
Et c'est ça, c'est que je sais qu'on va me regarder. Je sais très bien quand je sors dans la rue avec une paire de bottes de pluie, un manteau qui traîne sur le sol, qui fait ramasse bourrier des trottoirs de Paris, et avec, je sais pas moi, un blazer ultra oversize, Mugler, ultra troué, ultra déconstruit, etc. Je sais qu'on va me regarder, je suis pas inconscient.
Et qu'est-ce que ça te fait, le regard de l'autre, maintenant?
En fait, maintenant, quand ça m'amuse.
Ça t'amuse. Quand t'étais jeune, tu te cachais. Donc là, t'as voilà, changé.
Exactement.
Maintenant, ça t'amuse.
Tu sais, ça m'amuse. C'est-à-dire que je vois aussi que le regard des gens a évolué. Avant, c'était le regard un peu de l'interrogation. C'était le regard, mais qu'est-ce qu'il porte? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il se prend pour qui? Tu sais, avec ses grosses lunettes de soleil, ses gros pare-brise et tout. Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans le métro, là, avec des bottes de pluie Chanel, des trucs et tout, que j'ai eu en vente presse, d'ailleurs, il faut le dire. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qui, tu vois? Et en fait, aujourd'hui, je trouve que les regards ont changé. Les gens s'interrogent, mais s'en amusent aussi. Tu vois, j'ai un sourire maintenant à la place d'avoir un regard un peu noir.
Suspicieux, ouais. Est-ce que tu ne trouves pas que depuis le Covid, les choses ont changé au niveau des fringues? Il y a un truc qui a changé.
Si. Je pense que ça a beaucoup... Le Covid a fait évoluer énormément, je trouve, les mœurs de la mode. Tu vois, j'avais l'impression qu'à Paris, bon, tu sais, tu voyais certaines personnes en jogging, mais très peu. Aujourd'hui, le jogging, tu vois, j'ai fait une vidéo, arrêtez tout, comment on porte le jogging?
Non, mais on voit beaucoup, enfin, beaucoup, pas beaucoup. On voit, par exemple, beaucoup moins d'hommes en costume. Moi, j'habite dans le 9e, il y a des banques pas très loin.
Exactement.
Avant, à 8h du mat, tu voyais tous les papas qui accompagnaient leurs enfants à l'école étaient en costume-cravate.
Avec la cravate ultra serrée.
Voilà, et le cou, et c'est fini, on ne les voit plus.
Exactement. Je pense que le Covid a permis aux gens de se libérer et de savoir ce qu'ils voulaient vraiment pour eux, pour les autres, mais aussi en fait ce qu'ils voulaient porter, savoir s'ils voulaient être confort ou non. Aujourd'hui, on voit des ensembles, par exemple, moi j'ai adoré les ensembles Adidas en collaboration avec Wellies Bonheur. Aujourd'hui, le jogging, on le porte avec des talons, on le porte avec une ballerine.
Tu portes des talons, toi, il me semble.
Moi, je porte le talon. Je l'ai porté une fois, le vrai talon, le talon à aiguille. C'était parce que j'ai un ami qui fait des soirées, des anniversaires à thème complètement dingue. Il nous transporte dans son univers. En fait, il travaille dans l'événementiel, donc c'est Clément. Donc voilà, Clément, je sais qu'il écoutera ce podcast, ça lui fera plaisir. Il nous transporte dans un univers dingue. Mais ça va de la musique, de ses looks à lui, de nos looks à nous.
La scénographie, quoi.
Du gifting après qu'il nous fait. Il nous fait un gifting, c'est-à-dire que tu y vas, tu as l'impression d'accéder à un show. Tu vas voir les gens, comment ils sont habillés, comment toi t'es habillé. Et à la fin, tu repars avec ton petit sac. C'est complètement dingue. Je n'avais jamais vu ça. C'est le seul à le faire. Et j'ai porté le talon avec donc, la botte à talon. Aiguille, j'étais perché sur 12,5 cm. Quand même, à aiguille, tu vois. Donc, je porte des bottines, des petites bottes, etc. Tu vois, les Saint-Laurent Wyatt, etc. On est sur du 4,5
Mais je t'ai vu avec des talons, pourtant.
Mais je pense que c'était là.
C'était ça.
C'était des talons noirs.
Oui.
J'avais rentré un pantalon à pinces noir, un peu baggy, Mugler. Et en fait, le pantalon était raccroché à un corset Mugler. Le look était dingue. Il faisait moins 5 degrés. J'étais en corset, torse nu, dans les rues à Paris, en train de fumer une clope dehors.
Et tu te sentais le plus beau?
Je me sentais le plus dingue et le plus beau.
Ouais.
J'étais le plus heureux.
Donc, ça te donne confiance en toi aussi.
Mais bien sûr. C'est que la mode, c'est à la fois une barrière pour certains, mais je pense que quand tu as trouvé la mode comme façon de t'exprimer et de te soulager et de dire en fait fuck, tu vois.
De dire fuck,
pour être vulgaire, tu vois.
Mais t'as raison.
De dire en fait, je veux vivre ma vie.
Qu'est-ce que t'as envie de dire à toutes ces femmes que tu as certainement dû croiser aussi, qui te disent waouh, moi je n'ose pas. Moi, ça m'arrive que des femmes m'écrivent en me disant « mais j'ose pas », mais même des trucs, genre marcher avec des sabots, quoi. Ou les chaussettes rouges.
Voilà.
Je n'ose pas. Ouais. T'as envie de dire quoi? Fuck, quoi.
Mais c'est ça.
Arrêtez.
En fait, voilà. Arrêtez tout et faites-vous plaisir. En fait, c'est toujours ce truc de... Tu vois, je te l'ai dit avant et je le redis. Mais si on ne le fait pas, mais qui le fera à notre place? Moi, j'ai pas envie d'avoir... Tu vois, j'ai 24 ans, donc je suis très jeune. Et je pense déjà comme ça depuis... Un an et demi, depuis que vraiment je suis styliste freelance et que je vis comme ça dans ce milieu de la mode qui est une effervescence, etc. Je me dis, j'ai pas envie à 40 ou à 50 ans de me dire, ah, putain, ça j'aurais dû le porter quand j'avais 25 ans. Aujourd'hui, je peux plus.
Tu crois que tu te mettras des interdits avec l'âge?
Certainement pas.
Ouais, c'est ça. J'étais un peu étonné.
À mon avis, je me mettrai aucun interdit.
Est-ce
sûr, je le sens.
Est-ce qu'il y a un vêtement quand même que tu ne porteras jamais? Costume cravate sobre de banquier, justement.
Ouais, le trop classique, je crois que je le porterai jamais. Tu vois.
Pourtant, avec tes petites lunettes rondes.
Ben, c'est ça.
Non, non.
C'est... Bien sûr. On peut dire que, tu vois, on va croire que je peux faire du consulting. Tu vois, ouais, ouais. Ça peut le passer.
Ah, carrément. Ou alors, tu sais, on te met tout en velours. Hmm? Tu fais très prof de philo.
Oui, exactement. Ou l'homme Gucci. Tu vois, ça dépend. Avec la chemise un peu dépareillée. Mais tu vois, il y a un an et demi, je me serais dit, le jogging, jamais je vais le porter. J'ai aucun jogging à la maison. Hmm. Même à la maison, je ne porte pas de jogging. Je suis en short de boxe. Je suis toujours en caleçon un peu large, etc. En Birkenstock et tout ça. Ou en t-shirt, en Marcel et tout. Mais là, je suis à la recherche du jogging parfait. C'est ma quête. Mmh. Là, je cherche le jogging que je vais porter avec une paire de mocassins, tu vois, un peu plus classique, etc., un peu à la Gucci, etc., avec une paire de avec une chemise un peu loose, tu vois, un peu blanche, voilà, mais un peu en soie, un peu loose, tu vois.
Là, c'est ta quête.
C'est ma quête. Je ne trouve pas. J'ai trouvé, hein. J'ai trouvé chez Zara, etc.
Oui.
Mais je n'achèterai pas.
Non, tu veux vraiment de la qualité.
Voilà. Je veux le jogging qui va me durer dans le temps et qui va me faire une belle silhouette, une belle matière, qui va vivre avec moi, tu vois.
Ouais, tu gardes longtemps tes vêtements ?
Ouais.
Enfin, tu n'as que 24 ans, mais...
Je n'arrive pas à me séparer de mes vêtements.
Mmh. C'est-à-dire que tu les respectes quelque part.
Exactement. Tu vois, pour moi, les vêtements, en fait, je les personnifie tellement parce qu'ils me donnent tellement. Ils ne le sont pas au courant, hein, il n'y a aucune conscience dans le vêtement. Mais ils me donnent tellement que je n'arrive pas à vendre mes vêtements. Tu vois, j'arrive pas... Il y a des choses, tu vois, j'avais acheté un top pareil, Mugler en vente presse qui m'avait coûté 50 euros, tu vois, qui est tout en néoprène, ultra serré et en fait qui est thermoformé. Donc il y a un côté un peu bikers, mais qui me sert à mort. Aujourd'hui, déjà, il me faut quelqu'un pour que je puisse l'enfiler, parce que la fermeture dans le dos, je peux pas la fermer moi-même, donc il me faut quelqu'un, mon mec, qui puisse me fermer le truc, donc je le mets jamais. Mais il est hyper inconfortable. Mais je ne m'en sépare pas parce que je l'ai porté pour mon anniversaire il y a 2 ans, tu vois.
Donc ça se raccroche
puis, à quelque chose de très sentimental.
Il y a puis un côté aussi très sustainable dans ton comportement.
Exactement. Je consomme beaucoup de mode, de nouveau parce que j'ai accès aux ventes presse et que moi, un jean Mugler, je le paye moins cher qu'un jean Levi's.
Tu nous cites beaucoup Mugler, hein, ça fait partie de tes icônes.
Je suis en ADN.
Ah, c'est oui, c'est ça.
Aujourd'hui, je suis en ADN Mugler. Mais tu vois, qu'est-ce que je consomme d'autre? Bon, Chanel, tu vois, parce que mon compagnon travaille. Mais je paye, je ne peux pas dire le prix, etc. Parce que je pense que, voilà, il ne faut pas le dire. Mais je paye peut-être entre 20 à 30 % maximum du prix de base qu'on peut retrouver en boutique.
Alors, c'est là qu'on peut se poser les questions sur les marges aussi que se font les...
Exactement.
Les boîtes de mode. Hein.
J'ai des vestes haute couture Chanel ou alors des vestes métiers d'art par Lagerfeld à la maison.
Oui.
Tu vois.
Et chez Hermès aussi, hein, quand tu vois le prix des carrés en vente presse.
Que je vois que tout le monde, toutes les influenceuses, etc., qui sont invitées et les influenceurs qui sont invités et qui payent entre 70 et 80 euros maximum le foulard.
C'est ça, parce que les influenceurs, maintenant, c'est vrai qu'ont accès aux ventes presse.
Ouais. Bien sûr. Avant, tu vois, c'est pareil. Moi, je n'ai pas connu toutes ces époques-là. Mais j'assiste une styliste et pour moi, c'est très important d'en parler aujourd'hui parce qu'elle m'a aussi, permis de me libérer et de m'exprimer et de me dire, en fait, fais ce que tu veux de ta vie. Fais ce que tu veux de ta vie. Amuse-toi. Et donc, cette styliste, c'est Stéphanie Brisset, que j'assiste toujours sur certains éditos, tu vois, pour des magazines, etc., pour des grosses campagnes et tout. Et en fait, c'est vrai que moi, je n'ai pas connu toutes ces époques-là où il n'y avait que la presse d'invités.
Ah ben, Chanel, c'est la presse et les acheteurs.
C'est ça, les journalistes, etc., et les acheteurs. Elle me disait que voilà, parfois, il y avait des sacs Chanel qui coûtaient 300 euros. Parce que Chanel, il y a encore 10 ans, quand j'achète parfois des revues Vogue, des magazines Vogue des années 2000, parce que je commence à faire ma collection, pareil, grâce à Stéphanie Brisset, parce que c'est une grande collectionneuse de magazines de mode, parce qu'elle travaille dedans et elle a été chez Vogue aussi, etc., voilà, aux mêmes époques que Karen Rothfeld et tout. Donc, j'ai commencé à collectionner. Et là, j'ai vu le boom des prix. Chose que j'avais conscience petit peu. Mais quand je voyais le Timeless Chanel noir, le classique...
Moi, je l'ai connu à 1500 euros.
Oui.
Neuf, hein, en boutique.
C'est ça. Et neuf en boutique. J'ai vu un article en 97, donc je n'étais pas encore né, je suis né en 99, que le Timeless, il était autour de 500, 600, 700 euros. Mais tous les coloris déclinables.
Alors, qu'est-ce qui justifie ça, à ton avis?
Ah, mais moi, je pense que c'est tout le marketing. C'est toutes les énormes campagnes aujourd'hui pour vendre les produits. Et je pense qu'aujourd'hui, les maisons veulent se réapproprier leurs produits aussi. C'est-à-dire qu'ils ont vu, de toute façon, qu'aujourd'hui, tu peux économiser. Je ne dis pas que c'est accessible pour tout le monde, attention. Je dis que maintenant, il y en a beaucoup qui se donnent les moyens de s'acheter une pièce de luxe, d'économiser.
Oui, mais alors attention, il ne faut pas oublier que tu as certaines... Il y a des femmes qui économisent pour avoir un Kelly. Elles n'y ont même pas accès parce que chez Hermès, on ne veut pas d'elles.
Exactement.
C'est honteux.
Exactement. En fait, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, le luxe...
Il y a un certain snobisme de la part des maisons de luxe.
En fait, c'est fou comme il y a un 50%. Tu vois, si on prend un 100%, il y a 50% de... Le luxe devient finalement accessible. Tu as l'impression qu'il est accessible. C'est différent. Parce qu'on communique tellement sur le luxe, on a l'impression que le luxe...
Et partout.
Que la paire de mocassins Prada qu'on a vu tout le monde sur les influenceurs, il y a 2 ans, on a l'impression que la paire de mocassins Prada qui est à 1100 ou même des fois 900 euros, qu'elle est accessible. Non, elle n'est pas accessible. Tu vois, s'acheter une paire à 1000 euros, ce n'est pas accessible pour tout le monde.
Mais non, quand tu vois que le salaire médian en France est de 1400 euros ou 1500 euros.
Exactement. Voilà. Donc à un moment, il faut aussi...
Justement, j'ai une question.
Côté, ce qui est fou, c'est que le luxe décide aujourd'hui de qui va acheter du luxe. Chez Hermès, tu vois.
Bien sûr.
Hermès, moi, la maison.
Mais Chanel aussi.
Mais Chanel aussi.
Chanel aussi.
Bien sûr. La stratégie, etc., veut aussi ça. Le fait que maintenant, voilà, le timeless, il est aussi cher que le Birkin. Tu vois.
Mais il y a une chose, je discutais avec mon meilleur ami, salut Pierre, qui nous écoute aussi, ça je le sais. Il me disait qu'il était, lui, il a 37 ans. Mm-hmm. Il me disait qu'il était choqué de voir sur TikTok des très jeunes gens. Même plus jeune que toi, de 16-17 ans, habillé de pied en cap en Chanel, avec des sacs Chanel, des sacs Gucci, des sacs Hermès. Donc, on a eu tout un débat là-dessus. Je dis, ce sont peut-être des héritiers ou machin. Il dit non, je suis sûr qu'il y a autre chose, je suis sûr qu'ils louent les vêtements. Il y a tout un truc parce qu'il me dit, mais est-ce que ces gens-là ont la notion de l'argent finalement?
Ah bah, honnêtement, comme tu disais, il y a énormément de locations. Même à Paris, tu vois, tous les showrooms, etc. Tu peux te louer un sac, un Hermès pour une soirée, pour une semaine. C'est très facile. Tu contactes, tu arrives à mettre de côté...
Oui, mais l'intérêt, c'est d'avoir, de l'avoir. Voilà.
Bien sûr. L'intérêt là-dessus, il est nul. Puisque dans tous les cas, tu peux faire des visuels Instagram, etc. avec. Mais après, on ne te reverra plus jamais avec ce sac.
Voilà. Et donc quel est l'intérêt, finalement? Est-ce que c'est pas mieux, si tu n'as pas d'argent, d'avoir un tote bag?
On est d'accord. On est d'accord.
As-tu une icône de mode?
Une icône de mode? Il y a des gens que j'adore. Il y a des gens que j'adore. Par exemple, tu vois, il y a Victoria Beckham, j'adore.
Oh, et quelle élégante. Même avec des béquilles, elle est élégante.
Même avec des béquilles, elle est ultra mode. Tu vois, c'est une phrase que j'adore dire. C'est elle est ultra mode. C'est pour moi ce genre de femme.
Qu'est-ce que t'aimes chez elle?
Je crois que j'aime ce côté nonchalant.
Moi, j'adorais son pantalon sur le dernier show. Hein.
Oui.
Avec des béquilles noires.
On est d'accord. On est d'accord.
Tellement chic, des béquilles noires. Hein.
Exactement. Stéphanie Brisset en a fait une vidéo. Ça, je vous invite à aller la voir. C'est Karen Rothfeld. À un moment, on voit une vidéo qui, en backstage, qui dit quelque chose à Victoria, qui lui dit en fait que ça lui fait penser à une série mode qui avait été shootée dans le Vogue, alors par quel photographe, je ne sais plus, avec quel mannequin, je ne sais plus. Et en fait, la mannequin fait déjà 1m85 ou 1m80. En fait, elle porte des béquilles. Elle est sur un fauteuil roulant, etc. Stéphanie, vous en parlez
mieux
que moi. C'est dans le Vogue.
Ouais, ouais.
Vogue, je crois que c'est le Vogue Italie, je crois. Et en fait, Victoria Beckham, c'est horrible de dire ça, mais elle était ultra mode avec des béquilles.
Mmh. Ouais. Et ultra, moi personnellement, j'irais ultra élégante.
Mais bien sûr, mais oui, c'est ça. C'est que...
Avec une chaussure, alors les gens ne l'ont peut-être pas vu, mais elle avait des béquilles, mais avec un pied, pas plâtré, mais immobilisé.
Exactement.
Avec un chausson, je ne sais plus comment on appelle ça.
Exactement.
Et de l'autre côté, un escarpin.
C'est ça. Et en fait, ce que j'adore, moi, chez elle, c'est que elle a un côté hyper chic, ultra luxe, etc. Voilà, ça, d'accord. Mais elle a un côté hyper nonchalant, ultra facile. C'est-à-dire que le look Beckham, tu peux le reproduire à la maison. Tu te prends un tailleur violet, hyper épaulé, une paire de bottes ou d'escarpins, une blouse en soie ou voilà, matière un peu satinée. Mmh. Dans le même temps, tu te fais un look monochrome, tu as un look à la Beckham. Mmh. Elle a un look ultra identifiable, comme la Karine Rothfeld, qui porte toujours une jupe
crayon.
Voilà, mmh. crayon, avec une veste ultra épaulée, un peu à la Laïa, etc., mmh. avec une paire d'escarpins ultra haute et un collant avec une ligne noire derrière. Mmh.
C'est dingue. Qu'est-ce que tu as pensé du show The Raw avec le fait d'interdire les téléphones portables et les photos sur le show? Est-ce que c'est un buzz ou alors est-ce que c'est un coup de génie?
Eh bien, écoute, pour moi, c'est les deux en même temps. Pour moi, ils ont fait leur buzz, mais ils ont réussi à faire leur coup de génie. C'est-à-dire que c'est aussi un pied de nez de dire, en fait, on sécurise notre image et on la contrôle. En fait, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui va parler de The Raw, tu vois. On n'a pas besoin de soi. La marque, les sœurs Olsen, n'ont pas besoin d'un papier, que ce soit dans le Vogue ou que ce soit dans le New York Times, elles n'ont pas besoin.
Mais regarde le succès de leur sac Margot.
Mais bien
de
sûr,
Margot.
Qui est le nouveau Birkin, comme on dit.
Est-ce que tu crois que ça va durer dans le temps?
J'aimerais. Moi, j'aimerais parce que je trouve ce sac très beau. En plus, tu l'as. Ouais. Je trouve que ce sac est dingue. Dingue de simplicité, mais dingue.
Il fallait l'inventer.
Exactement.
Et le cuir, le toujours, cuir est merveilleux.
On invente toujours, tu vois, le trop, le too much, le micro sac, le maxi sac, la pièce de bijouterie sur le sac, le motif, machin. Mais en fait, est-ce qu'on possède à la maison le sac ultra simple mais qui fonctionne avec tous les looks?
Mais tu sais,
non, on l'a pas.
Voilà, c'est comme, tu sais, trouver le parfait petit pull marine.
Exactement.
Ou le parfait t-shirt, c'est une quête. Alors,
exactement.
Toi, tu parlais du jogging, mais voilà, c'est ça. Et c'est
le
vrai
bon
que trench, les.
Le tout ça. Ouais, c'est... Les pièces basiques. Et en fait, je crois qu'on s'est écarté aussi des pièces basiques qui font d'un look, enfin un look ultra mode. Tu vois, le fait que tu as le bon jean dans lequel tu te sens bien, dans lequel limite tu peux courir, tu vois, mais que tu vas mixer avec une petite paire de sandales à talons, avec le beau blazer.
C'est ça l'élégance.
Tu vois,
le mixer, l'art de mixer.
Exactement. Pour moi, c'est ça l'élégance. C'est, tu vois. En fait, pour moi, tu es élégant.
Alors du coup, l'élégance, la définition de l'élégance.
On y vient. Pour moi, l'élégance, tu ne l'obtiens pas forcément via ton look. Tu n'obtiens pas, on ne dit pas de quelqu'un, oh, tu es super élégant. Tu vois, on le dit, oui, parce que la femme, elle porte la robe en soie, noire, sublime, un peu robe de cocktail, etc. Oui, la femme, par définition, comme ça, elle est élégante, puisque la robe est élégante. Mais pour moi, l'élégance, c'est surtout la personnalité, en fait. T'es élégant quand t'es assumé, quand tu assumes ce que tu dis, quand t'as une personnalité, qu'elle soit plus ou moins forte, hein, on n'a pas besoin d'être dans le too much, voilà, pour assumer sa personnalité. Mais pour moi, l'élégance, c'est ça, c'est surtout l'humain.
Quand tu assumes ce que tu dis et ce que tu es.
Exactement.
Tu m'as cité Victoria Beckham, tu m'as cité Karine Rothfeld, tu m'as cité Mugler, que des gens qui avaient une présence.
Aura, une aura,
voilà.
C'est ça. Qui ont un look pourtant ultra simple, finalement. Bon, oui, Karine Rothfeld, quand elle porte la veste Gucci par Tom Ford. Oui, c'est pas accessible pour tout le monde. Mais quand tu regardes le look, elle porte une veste à crayon. Enfin, une
jupe crayon.
Elle porte un escarpin, elle porte une petite veste un peu blazer, un peu cintrée, épaulée, elle porte un sac noir, elle porte sa paire de lunettes de soleil.
Oui, bah en fait, elle a trouvé son ADN.
Exactement. C'est comme Lagerfeld, tu vois.
Oui, bien sûr.
Lagerfeld, modèle de réussite dans tous les cas, certes, modèle de look, certes, et pourtant, il y a un truc que j'adorais chez lui et qui est ultra contradictoire avec ce que je fais sur les magazines et avec mes clientes, etc., dans les campagnes. C'est qu'en fait, tu sentais qu'il était engoncé dans ses vêtements.
Non, mais ça, c'était le Neu Lavalière qui faisait ça.
C'est ça. Mais je crois aussi que la veste, tu vois, un poil trop serré. Le skinny.
Ah oui, c'est vrai.
Un petit peu trop.
C'est vrai qu'il était toujours en skinny.
Quand il portait, tu vois, la paire de bottes un peu à la Saint-Laurent. Voilà, il ne portait pas Saint-Laurent parce que...
Chanel.
Mais tu vois, cette paire un peu, la botte un peu en croco, etc., ultra serrée, ultra... il n'était pas bouffi dans ses vêtements, tu vois. Mais tu sentais, c'est hyper paradoxal ce que je vais dire, tu sentais l'inconfort de ses vêtements, ce qui le rendait hyper élégant. C'est-à-dire que j'ai un rapport à la mode où moi, j'aime aussi parfois me sentir en confort dans mes vêtements.
Ah, t'es un des premiers à me le dire aussi, généralement.
Tu vois, j'aime l'inconfort. C'est dingue, non? Et je crois que ça, c'est le rapport ultra...
Comment tu l'analyses?
Mais je crois que c'est le rapport presque sadomaso avec la mode. Ah, c'est dingue. Non, mais c'est dingue, tu vois. C'est... J'aime avoir le manteau un peu trop long.
Ouais, et c'est pas... Moi, alors là, je suis beaucoup plus terre à terre. C'est-à-dire, comment tu fais pour le nettoyer après? C'est chiant.
Exactement. Et ben, le soir, je brosse mon pantalon et mes vêtements, tu vois, et je l'estime et je les lave, tu vois.
En plus, t'en prends soin.
Exactement. Mais j'adore l'inconfort. J'adore une paire de chaussures qui a un poil trop petite.
Ah oui.
Dingue, non?
Ah oui, là, c'est du sadomasochisme pour moi.
Et en fait, pourquoi? Parce que je sais que quand je porte la paire de chaussures qui est un poil trop petite, je vais avoir le dos hyper droit. Parce que j'ai une démarche différente.
Eh bien, sur ce conseil, je te remercie infiniment pour ces plus de 50 minutes de mode. T'as vu comme ça passe vite?
Ça passe vite, ça passe très très vite. On aurait pu faire une journée entière, une semaine.
Ah bah oui, alors ça c'est clair.
La mode.
Merci infiniment Mathias, continue à nous faire rêver et puis à nous apprendre beaucoup de choses encore.
On espère pour la suite encore. Merci beaucoup Valérie.
Merci à vous chers auditeurs et n'oubliez pas, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues.
Toujours.
Toujours. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.